Bon, je vais essayer de mettre mon chronomètre hein, pour ne pas être trop long, mais comme j'ai dit hier soir, je ne suis pas toujours capable de tenir les promesses que je fais parce que bon, y a d'autres événements qui peuvent venir interférer là-dessus. Je me souviens de cette histoire qu'on raconte de cet homme qui était habitué dans son église et qui a amené un visiteur avec lui. Et puis il lui expliquait tout ce qui se passait, à chaque fois le visiteur lui demande, et ça veut dire quoi? Il explique, eh bien ça veut dire ceci ou cela, eh bien là ça veut dire qu'on va chanter, et là ça veut dire qu'on va prier. Et puis à un moment donné arrive le prédicateur qui enlève sa montre, et puis qui met sur le pupitre, et le visiteur demande à son ami, et ça veut dire quoi? Et le fidèle lui dit, ça veut rien dire ça. Donc j'espère que ça voudra dire quelque chose pour moi de l'avoir mis ici. Je vais pouvoir le consulter de temps en temps. Je ne regarderai pas les messages, je vous promets. C'est juste pour pouvoir le consulter. Je vous remercie encore du privilège hein, que vous me faites de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Je suis conscient de mes faiblesses hein, dans toutes ces choses, mais en même temps conscient de la force de notre Seigneur Jésus-Christ et de la puissance de l'Esprit Saint qui nous guide. C'est lui qui doit nous éclairer. Et je l'ai dit un petit peu hier, je n'ai pas dit plutôt hier, mais je veux quand même dire que je suis, ça a été dit, hein, marié à une femme qui s'appelle Patricia, qui actuellement est en Guadeloupe pour s'occuper un peu de ses parents. Donc elle n'a pas pu venir avec moi. Et aussi, nous avons quatre enfants, dont trois sont ici. Hein. Notre fille aînée n'a pas pu venir avec nous. Voilà. C'est vrai, j'ai été à Bordeaux dans le passé. C'est une ville qui reste chère à mon cœur. Hein. Nous avons passé quatre jours, je crois, ici, au mois d'août, au début du mois d'août. On a logé chez les Servas et on est venu, c'était parce que c'était notre 25e anniversaire de mariage. Alors on a voulu revoir un peu les lieux. Alors j'avoue qu'on n'a pas reconnu beaucoup d'endroits, hein, mais on a voyagé un petit peu en tram pour revoir un peu cette ville de Bordeaux. On est retourné sur le campus et c'était vraiment quelque chose d'agréable pour nous. Quand on a emmené nos enfants il y a quelques années, on a dit voilà, c'est là que j'étais dans cette chambre universitaire. Et puis, oh, ils disaient, ça ne nous intéresse pas tout ça. Mais avec mon épouse, quand on est passé la semaine dernière, au mois d'août, eh bien, ça avait du sens pour nous. C'était de véritables souvenirs. Voilà. Nous avons parlé hier soir de cette deuxième épître de Pierre. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible dans la deuxième épître de Pierre. De Pierre, au chapitre 1. Alors, il y a trois chapitres, c'est pas très long. Hein. Donc, quand vous lisez de Pierre, il faut tout lire d'une presse, parce que c'est vraiment court. Hein. Donc, on va nous se focaliser sur le premier chapitre et le troisième chapitre. Le deuxième, c'est une description vraiment de ce que sont les faux docteurs. Donc, on pourra y faire référence de temps en temps, mais on restera essentiellement sur le premier chapitre et sur le troisième chapitre de Pierre. Je vais lire donc les versets 12 jusqu'à la fin du chapitre. De Pierre, chapitre 1, à partir de verset 12. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Allons prier. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole et nous te demandons la pleine direction de ton Esprit Saint, afin qu'il nous conduise dans ta vérité. Amen. Le thème général que nous avons choisi, c'est celui de « Souvenez-vous de ces choses ». C'est ce que l'apôtre Pierre, l'a dit hier soir, dit dans cet épître. Il n'apporte rien de nouveau, aucune vérité nouvelle, pas de doctrine nouvelle, mais il s'adresse à des chrétiens, verset 12, il dit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Donc il parle à des gens qui connaissent et à des gens qui sont établis dans la vérité. Mais il dit qu'il va leur rappeler. Et au chapitre 3, on a lu, chapitre 3, verset 1, il dit « Voici déjà bien-aimé la seconde lettre que je vous écris, et dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. » Au verset 15 de ce chapitre 1, il dit « J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Et de quelles choses parle-t-il? Hier, nous avons vu qu'il parlait des réalités du salut. Et aujourd'hui, bien, nous voyons qu'il parle de la fiabilité de l'Écriture. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il explique de quelle manière il l'a fait au verset 19. Il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc, il dit, je vais mettre un point d'honneur, un devoir, je vais regarder comme un devoir de vous rappeler la fiabilité, la certitude de l'Écriture. Et tout à l'heure, le frère, je pense, Anderson a parlé de l'erreur. On est aussi garder de l'erreur lorsque l'on connaît, qu'on attache de l'importance à la parole. Le cantique 400 qui a été chanté, je crois qu'il le dit, il parle « Instruis-moi par l'Écriture » et c'est par cette Écriture que nous sommes gardés de l'erreur. Mais si nous ne croyons pas dans la fiabilité de l'Écriture, nous ne pouvons pas faire appel à l'Écriture pour combattre l'erreur. Et Pierre dit « Voilà ce que je vais vous laisser un testament ». Il ne va pas leur laisser des biens, des châteaux, il n'avait pas tout cela. Il va leur laisser un texte écrit, et dans ce texte écrit, ce qu'il y a de capital, c'est l'Écriture, l'une des choses en tout cas, l'Écriture est fiable. Vous pouvez lui faire confiance. La Bible est un livre qui est le livre le plus vendu dans le monde. Et paradoxalement, c'est le livre qui est la cible d'attaques aussi dans le monde. Sa véracité, son authenticité font l'objet de la méfiance d'hommes et de femmes. Et même parfois, malheureusement, dans le cercle dit chrétien, il y a des gens qui commencent à mettre, depuis longtemps déjà, qui mettent en doute une bonne partie de l'Écriture en disant ça c'est bien, on peut accepter, mais ça c'est pas à prendre vraiment, on peut laisser de côté, c'est peut-être pas tout à fait inspiré. Et l'un des plus grands défis du chrétien, c'est certainement la place que doit tenir l'Écriture dans sa propre vie. Quelle estime a-t-il de la parole de Dieu? Quelle confiance, quel crédit accorde-t-il à la parole de Dieu, quand elle parle du péché, quand elle parle de l'enfer, quand elle parle de la mort, quand elle parle de la résurrection du Fils de Dieu, quand elle parle de son ascension, et ce qui intéresse aussi particulièrement l'apôtre Pierre ici, quand elle parle du retour en gloire et en tant que juge de Jésus-Christ. Et nous comprenons dans le verset 16 que Pierre avait enseigné la puissance de l'avènement, du retour, du second retour, seconde venue plutôt, du Seigneur Jésus-Christ. Et il l'avait enseigné, il l'avait établi, les chrétiens étaient affermis là-dedans, mais certainement arrivaient maintenant des faux docteurs qui mettaient tout cela en doute. Et puis peut-être qu'ils disaient, ouais, mais c'est des fables tout ça, ça a été conçu, ça a été fabriqué du cerveau humain, c'est un montage, et on ne peut pas vraiment attacher, mettre toute sa confiance dans ces choses. Alors Pierre dit, premièrement, que ce n'est pas une fable. Et il va, dans un premier temps, et c'est mon premier point, montrer la qualité du témoignage apostolique. Il va montrer que leur témoignage est un vrai témoignage et qu'on peut leur faire confiance. Il dit, premièrement, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues, mais c'est comme ayant vu Sa Majesté de nos propres yeux. Comment pouvons-nous faire confiance à l'Écriture? Comment savons-nous que c'est vrai? Bien, Pierre dit ici, notre témoignage est vrai parce que ce que nous écrivons est vrai parce que nous avons été des témoins oculaires de ce qui s'est passé. Ce n'est pas une fable, on n'a pas conçu ces choses dans notre esprit. On connaît bien les fables, les histoires. Le mot qui est utilisé par fable ici, c'est le mot qui a donné mythe. En français, mythe. On connaît la mythologie grecque, quelqu'un qui fait de la littérature ici connaît ça mieux que moi. Et on sait bien que les hommes utilisaient ces choses pour donner une conception du monde, de la réalité, mais ce ne sont pas des histoires vraies. Parfois, elles peuvent transmettre un certain message, mais ce ne sont pas des histoires vraies. Si on pense plus communément aux fables de La Fontaine, la cigale et la fourmi, c'est pas vrai, il n'y a pas une discussion un jour entre une cigale et une fourmi, mais on comprend bien la leçon qu'il y a derrière, c'est-à-dire la valeur du travail. Ça, c'est compris à travers. Mais l'histoire même qui est racontée, elle n'est pas une véritable histoire. Ce que Pierre dit ici, c'est que l'histoire qu'il raconte, lui, ça n'est pas une fable qu'il a conçue pour enseigner une vérité, mais que l'histoire même est vraie, elle existe, et que le témoignage qu'il apporte est fondé sur des faits historiques. Et on peut faire confiance à ce témoignage parce que ce n'est pas quelque chose qui est monté dans le cerveau, conçu par l'esprit humain pour enseigner une vérité, mais l'histoire même est déjà une vérité qui enseigne d'autres vérités. Elle s'appuie sur une vérité. Et il dit, donc ce n'est pas par des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu Sa Majesté de nos propres yeux. La grande affirmation qu'il dit ici, c'est que la connaissance de la puissance du retour de Jésus-Christ, l'enseignement de la doctrine du retour de Jésus-Christ repose sur un fait historique véritable. Et c'est pour cela que vous pouvez lui faire confiance. Il dit, j'ai vu. Quand quelqu'un dit, j'étais là, j'ai vu. C'est un témoignage qui a de la puissance. Et c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, on vit une époque où la Bible est attaquée de toutes parts et elle est rangée au rayon de fables. Je lisais cette semaine, en préparant cette étude, des gens qui écrivent des livres pour démontrer que tout cela n'est que pure invention et que pure fable. Mais nous savons très bien que cela n'est pas vrai. Et Pierre donc prend les devants parce qu'il dit, cette parole, elle est fiable, l'évangile est fiable parce qu'elle est basée sur un témoignage particulier, sur un fait historique. Ce que je voudrais nous faire remarquer ici, c'est qu'il dit, dans ce témoignage, regardez verset 16 déjà, il dit ce n'est pas par des fables habilement conçues, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il va montrer ici la pluralité, si je puis dire, du témoignage. Il ne dit pas, ce n'est pas par des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, et parce que j'étais là. Il explique que ce n'est pas une expérience vécue en solitaire. Il dit, nous avons vu, regardez ce qu'il dit, hein, comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, hein, c'est eux, il y a des gens, il y avait plusieurs personnes qui ont vu, verset 18, et nous avons entendu cette voix, et puis, lorsque nous étions sur cette sainte montagne. Son témoignage n'est pas un témoignage solitaire. Il y a des gens qui vivent des témoignages solitaires. Ils disent, oui, moi, j'ai vu quelqu'un. Mais ils sont tout seuls à avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Alors, on est obligé de leur faire confiance sur parole. Mais quelquefois, ça met un petit peu de doute. Parce qu'ils étaient tout seuls à vivre et on s'est dit, mais ils s'étaient peut-être trompés. C'était peut-être une hallucination. C'était peut-être, s'il y avait peut-être deux ou trois personnes, ça aurait été bien. Et on sait que, lors de la transfiguration, puisque c'est de cet événement que Pierre parle, eh bien, il y avait Jacques aussi et puis Jean. Ils étaient avec le Seigneur sur la sainte montagne. Et pourquoi est-ce que Pierre dit « nous étions là » C'est pour dire que j'étais pas tout seul, et puis pour donner aux gens la possibilité d'aller vérifier, s'ils le veulent. Parce que probablement, quand il écrit ça, Pierre, Jacques et Jean aussi étaient encore là. Un peu comme le fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, quand il parle de la résurrection. Beaucoup de gens mettent en doute la résurrection de Jésus-Christ. On peut dire qu'il y a quelques illuminés, ils ont eu quelque chose et puis ils ont commencé à répandre une doctrine que Christ est ressuscité. Mais ça n'est pas vrai. Et lorsque Paul, dans 1 Corinthiens 15, le grand chapitre sur la résurrection, parle de la résurrection, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, il dit, il m'est apparu à moi, hein, il parle que Jésus lui est apparu, mais il dit d'abord, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères, ça c'est déjà pas mal, mais il ajoute, dont la plupart sont encore vivants et d'autres sont morts. Pourquoi est-ce qu'ils disent dont la plupart sont encore vivants? Il est en train de leur dire, allez les voir si vous voulez. Ils sont là. Hein? S'il s'est passé un grand événement, notre frère a parlé tout à l'heure de ce cataclysme qui est arrivé le 11 septembre 2001. Vous pouvez croire que c'est pas réel, c'est pas vrai. Mais si on vous dit, il y a des gens qui étaient là, ils ont vu cela. Allez les voir, ils vont vous dire. Et plusieurs personnes vous disent, oui, j'étais là. Et là, vous dites, ça ne peut pas être un mythe. Ça ne peut pas être quelque chose qui est inventé. Et Pierre dit, nous étions plusieurs à le voir. Et puis, regardez aussi l'étendue de ce témoignage, la plénitude de ce témoignage. Il dit, comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, nous avons entendu et nous étions avec lui. Tous les sens sont engagés dans cette expérience. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'ils ont vu, mais ils ont vu, ils ont entendu, et puis dit, on était physiquement présent avec le Seigneur quand cela s'est passé. Et vous pouvez vérifier tout cela. Et donc, il appuie vraiment son témoignage. Pourquoi c'est important? Parce que notre foi à nous, ses frères et sœurs, dépend du témoignage apostolique. Si nous n'avons pas ce témoignage, nous ne comprenons rien de l'Écriture, rien de l'Église, rien du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons aucun enseignement sur son retour, sur toutes ces choses. Il nous faut baser notre foi sur le témoignage apostolique. Quand Jean écrit sa première épître, il commence comme ceci. Il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. » C'est un témoignage qui est basé sur une expérience historique, véritable, vérifiable. Et c'est pour cela que nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Elle ne repose pas sur du vent, sur quelque chose qu'on nous a dit. Non, il y a, et cela s'est transmis de génération en génération, des hommes à qui Dieu s'est révélé, qui étaient des témoins véritables. L'apôtre Jean dit, nous avons touché même. Hein? C'est-à-dire que c'est un témoignage tangible. C'est pas juste quelque chose qu'ils ont vécu par personne interposée. C'est pas, comme on dit, c'est pas l'ours qui a vu l'ours, l'homme qui a vu l'ours, hein, vous connaissez cette expérience, hein. Quelqu'un parle, il a rencontré quelqu'un qui a rencontré quelqu'un qui a rencontré quelqu'un qui a vu quelque chose. Ce n'est pas ça, hein. Il dit, nous étions là quand nous écrivons. Ceux qui écrivent ces choses, c'était les premiers témoins de ces situations. Et il dit, parce que nous l'avons vu, l'apôtre Jean, alors nous lui rendons maintenant témoignage. Et ce témoignage, nous savons qu'il est un vrai témoignage. Et Pierre veut que les chrétiens gardent dans leur mémoire la qualité du témoignage apostolique. Il dit, ce n'est pas par des fables. Nous étions là et nous vous annonçons ces choses. Et il voit dans cette manifestation, au verset 17, en gloire du Seigneur Jésus-Christ, dans cette transfiguration, eh bien, ce qui va se passer quand Christ reviendra dans sa gloire. Et donc, il dit, l'enseignement doctrinal que je vous ai donné sur l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ repose aussi sur cette expérience que Dieu nous a permis de vivre, qui est un fait historique vérifiable lors de sa transfiguration. L'évangile, donc je l'ai dit, n'est pas une doctrine qui repose sur rien. Vous pouvez dire ça aux gens qui nous disent « vous croyez dans des mythes ». Ça repose sur des faits vérifiables. C'est toute la sagesse de Dieu a voulu que le message de l'évangile repose sur des choses qui sont fondées, vraies et vérifiables. Et aujourd'hui encore, on peut avoir des preuves, pour ceux qui veulent être honnêtes et avoir des preuves sur des choses qui se sont produites et qui se sont passées. Deuxième chose que l'apôtre Pierre montre ici, verset 19, il montre aussi, donc premièrement on a vu la qualité du témoignage apostolique, mais ici il parle de la certitude de la parole prophétique. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Nous tenons pour d'autant plus certaines. Lorsque les hommes font une expérience extrasensorielle, enfin, il paraît qu'il y en a qui font des expériences extrasensorielles, hein, eh bien, ils s'attachent à cette expérience, de manière générale. Parfois, il y a des gens dans les églises, peut-être ça n'arrive pas dans vos églises, mais dans nos églises, des fois, il y a des gens qui font une expérience de délivrance. Et puis, qui vous disent, par exemple, voilà, mais je suis certain, j'étais possédé par un démon, puis Dieu m'a délivré de ce démon. Moi, je dis, c'est ton expérience. Pourquoi pas? Mais après, à partir de cette expérience, ces personnes ajoutent des choses et puis veulent que cela soit enseigné en doctrine. Alors maintenant, il faut, dans notre Église, prêcher la doctrine de la guérison. Que Dieu peut, que Dieu guérit, que Dieu délivre. Et vous voyez déjà un petit peu comment on peut dévier de la parole de Dieu. Et ce qui devient le point de focalisation pour ces personnes, c'est cette magnifique délivrance qu'ils ont eue dans leur dans cette expérience. J'ai le doigt à deux verres. Je peux parler deux fois plus longtemps, alors. Merci. Donc, cette expérience qu'ils ont eue de délivrance ou de guérison devient la chose la plus importante. Et on s'aperçoit que la délivrance du salut est reléguée au second plan. C'est relégué au second plan. Et on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On a... L'Évangile nous appelle à nous réjouir parce que nos noms sont inscrits dans les livres, à nous réjouir parce que le Seigneur nous a sauvés. Et si nous n'avions rien d'autre à côté de tout cela, nous avons toutes les raisons de nous réjouir dans notre salut. Et on voit des personnes qui parce qu'ils ont vécu une expérience, l'expérience devient la chose principale. Donc, il y a là un problème. Avec l'apôtre Pierre, il aurait pu dire, voilà, son expérience, c'est vraiment fait. Il aurait pu passer son temps à parler de la transfiguration. Okay. Ce qu'il fait, il dit, nous étions là, nous avons vu, nous avons entendu, mais tout de suite, il prend l'esprit de ces chrétiens et il les dirige vers la parole de Dieu. Il dit, mais vous faites bien de prêter maintenant attention à cette parole. Je vous dis notre expérience pour que vous puissiez croire que ce que nous avons écrit est fiable. Mais là où vous devez placer votre confiance, c'est dans la parole. La parole prophétique, pour eux, à l'époque, c'était l'Ancien Testament. Tout le Nouveau n'était pas encore réalisé. Donc ici, il dit, vous faites bien de prêter attention à cette parole prophétique. Quand une expérience m'amène à retourner à la parole, à découvrir mon Seigneur dans la parole, je peux peut-être dire, bon, c'est une expérience positive. Mais si l'expérience que j'ai focalise mon attention uniquement sur elle-même et me détourne de la parole ou de la louange que je dois avoir à l'égard de mon Dieu pour le salut qu'il m'a accordé, il y a un problème. Et Pierre montre ici à ces chrétiens qu'ils doivent faire confiance encore davantage à la parole de Dieu. Elle est d'autant plus certaine. Cette expérience lui montre que cette parole doit être encore d'autant plus leur refuge. Ce que les prophètes ont écrit concernant le retour de Christ est vrai, et qu'ils n'avaient peut-être pas eu besoin de cette expérience. Maintenant, pour nous, l'expérience qu'il a eue, c'est l'Écriture. Pour nous qui lisons la parole de Dieu maintenant, cette expérience fait aussi partie de l'Écriture. Mais au moment où il l'écrivait, lui, c'était la parole prophétique, l'Ancien Testament, qui était son fondement. Et il dit, vous avez intérêt à placer votre confiance dans ce fondement-là. Parce que cette parole, dit-il, est certaine. L'apôtre Paul dit à Timothée, c'est une parole certaine. Partout dans la Bible, on trouve que la parole est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Vous voyez, le centre de ce que Paul dit ici, c'est le salut. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et il dit ça, c'est raconté dans les Écritures, et ça c'est certain. Vous pouvez y placer votre confiance. Et donc, à plusieurs endroits, dans Timothée, l'apôtre Paul rappelle cela, cette parole est certaine, par exemple, en 2 Timothée 2, verset 11, il dit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Cette parole est certaine, dit-il à Tite. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. La parole est certaine. Pierre dit, cette parole, vous faites bien d'y prêter attention. C'est là son exhortation. Il dit, si notre témoignage est fiable, la parole est certaine, il vous faut maintenant prêter attention à cette parole. Il parle à des chrétiens qui connaissent ces choses, qui sont affermis dans ces choses. Et il dit, tout ce que je veux que vous reteniez, je veux que même qu'après ma mort, vous puissiez vous souvenir d'une chose, c'est que vous devez prêter attention à la parole de Dieu, parce qu'elle est fiable, parce qu'elle est véritable, et parce que c'est elle, et uniquement elle, qui vous garantit contre l'erreur. Lorsque, vous vous rappelez, Jésus a été ressuscité, et puis qu'il a marché sur le chemin d'Emmaüs avec les deux disciples qui rentraient, qui étaient tristes et désespérés. Et vous savez ce qu'il leur dit quand il commence à... ces hommes lui disent, oui, on croyait que c'était lui qui délivrerait la nation d'Israël, mais voilà, ça fait 3 jours qu'il est mort, etc. Et puis Jésus dit ceci, il dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Pour Jésus, la marque d'intelligence, c'est de placer sa confiance dans ce qui a été écrit et même écrit par les prophètes. Le monde nous dit qu'il faut apprendre à tout mettre en doute. Il faut savoir prendre du recul par rapport à la parole de Dieu. Oui, vous êtes toujours dans le nez fourré dans la Bible. Il faut prendre du recul par rapport à cela, pouvoir analyser avec votre propre intelligence. Soumettre la Bible, c'était la pensée du siècle des Lumières, soumettre la Bible à la raison humaine. Juger avec l'intelligence que nous avons et la raison que nous avons de la validité ou non de l'Écriture. Jésus dit, vous êtes sans intelligence si vous n'êtes pas capable de placer votre confiance dans ce qu'ont dit les prophètes. Vous êtes lent, vous êtes sans intelligence parce que vous n'avez pas mis votre confiance dans ce qui a été annoncé par le prophète. Pourquoi donc faire attention à cette parole prophétique? Bien parce qu'elle est suffisante en elle-même pour réfuter l'erreur. On ne réfutera jamais l'erreur en essayant de trouver des arguments qui viennent de nous-mêmes. Paul ne faisait pas ça, pourtant c'était l'apôtre Paul. Apollos, qui est présenté comme un homme éloquent, la Bible dit qu'il était éloquent, c'est-à-dire qu'il avait du verbe, il avait la capacité de convaincre ses auditeurs. Et regardez ce que la Bible dit de lui en Actes chapitre 18, verset 18, sur la manière avec laquelle, verset 28, sur la manière avec laquelle il réfutait les Juifs en public. Actes 18, verset 28 dit, verset 27, milieu du verset 27, « Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs, démontrant, et c'est ce qui est important ici, comment il démontrait ? Par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc, vous savez, les Écritures qu'ils avaient à l'époque, c'était quoi? Mais oui! Nous, des fois, on dit, l'Ancien Testament, j'aime pas trop, c'est compliqué, il faut lire Lévitique, à quoi vous lisez Lévitique? Oh, rien. Mais, Paul et Apollos réfutaient les Juifs avec l'Ancien Testament. Et par l'Ancien Testament, il démontrait que Jésus est le Christ. Par l'Ancien Testament. Cette parole, dit Paul, Pierre, vous faites bien d'y prêter attention. Elle est fiable. Elle révèle, même l'Ancien Testament révèle la personne de Jésus-Christ. Et quand vous lisez les écrits de Paul, dernièrement, je fais une étude sur tout le livre de Galates, Saint-Denis, et c'est impressionnant de voir le nombre de fois où l'apôtre Paul fait appel à l'Ancien Testament pour démontrer que on est sauvé par la foi seule en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Donc je disais, l'Écriture, il faut faire attention à l'Écriture parce qu'elle est suffisante pour réfuter l'erreur. Jésus lui-même, lorsque il était tenté, dans Matthieu chapitre 4, la Bible nous dit qu'il a fait appel aux Écritures. Vous vous rappelez plusieurs fois, quand le diable a tenté, il a dit « il est écrit, il est écrit ». Même lorsque le diable a tenté une petite incursion dans les Écritures en disant « mais il est écrit aussi », et Jésus a réutilisé encore les Écritures en disant « il est écrit ». Lui qui est Dieu, il aurait pu dire autre chose, il aurait pu sur le coup inventer, je sais pas, un argument, quelque chose. La Bible dit qu'il a utilisé les Écritures. Pourquoi? Parce que les Écritures sont fiables pour réfuter l'erreur. Si nous voulons réfuter l'erreur, il nous faut connaître, et profondément connaître la parole de Dieu, et connaître notre Seigneur Jésus-Christ à travers cette parole. La parole à laquelle vous faites bien de prêter attention revient à notre verset 19. Il dit « comme une lampe qui brille dans un lieu obscur ». Ça nous rappelle bien sûr le psaume 119, verset 105, qui dit « ta parole est une lampe à mes pieds. Donc c'est une métaphore hein, que fait Pierre ici. Il dit cette parole prophétique, et on pourrait prendre maintenant pour nous les Écritures tout entier, sont comme une lampe qui brille sur ce chemin obscur dans lequel nous avançons. Et nous avons besoin de cette lampe pour pouvoir marcher un pas après l'autre. Hein, on ne sait pas ce que sera demain, ce que sera cet après-midi. Et nous avons besoin chaque jour dans notre vie de faire confiance à cette parole. Proverbe 6, verset 23, dit aussi ceci. Proverbe 6, 23. Je vous invite à regarder un peu juste ce petit verset. Proverbe 6, 23 dit « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. » Voilà pourquoi nous devons nous attacher, nous devons prêter attention. Et il dit jusqu'à, je reviens au verset de 19, donc de Pierre chapitre 1, il dit « C'est une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » L'étoile du matin, c'est le porteur de lumière. C'est que Jésus est présenté comme l'étoile du matin. Et je pensais tout à l'heure quand le père Anderson parlait de cette l'homme de l'étoile, c'était ça qu'il avait rencontré. Je crois qu'il a dit qu'il s'appelait l'homme de l'étoile. Hein. Et c'est, je pensais que cet homme de l'étoile, en recevant Christ dans sa vie, eh bien, a vu se lever l'étoile du matin. Elle a cette véritable lumière dans son cœur. Il était sur ce chemin sombre, chemin des Appalaches, et tout était sombre pour lui, et cette parole qu'il a reçue est devenue, après cette lumière, qui a continué à le guider. Il a fait bien de prêter attention à la parole qu'il a entendue par un serviteur de Dieu. Et cette parole, par cette parole, il a reçu Christ. Et la lumière s'est levée dans son cœur. C'est sûr que quand Pierre parle de « jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève », il pense à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, quand il va revenir, ce sera vraiment à ce moment-là le jour et la lumière parfaite pour chacun d'entre nous. Mais déjà ici-bas, nous pouvons avoir cette lumière qui nous guide et ces rayons qui commencent à briller aussi dans nos cœurs lorsque nous attachons l'importance à cette parole prophétique. Et puis je termine, la troisième chose que Pierre dit ici, eh bien, il va montrer l'inspiration de la parole prophétique. Au verset 20 et 21, il dit « Sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas interpréter les Écritures comme je veux. Il y a des gens qui disent ce que le texte me dit, c'est ce qu'il veut dire. Je discutais une fois avec un collègue de travail et moi j'aime bien les beaux tableaux. Quand je regarde des tableaux, des scènes bibliques qui sont peintes par Rembrandt et tout ça, je trouve ça magnifique avec des jeux de lumière. Mais j'avoue, je suis vraiment nul quand il faut regarder les tableaux modernes où il y a des formes bizarres et je ne comprends rien à ces tableaux. Et une fois, je discutais avec un collègue, je dis, mais je sais pas, j'ai du mal à comprendre ce que il faut comprendre quoi. Et il me dit, mais ce que tu comprends, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, lui, il comprend quelque chose, moi, je comprends autre chose, et finalement, c'est ça que l'auteur a voulu, le peintre. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il a voulu peindre. Il dit, mais dans ce type de tableau, tu peux pas. Lui, il s'est passionné de ces choses-là. Donc, et il me dit, il y a des gens qui font pareil avec la parole de Dieu. Ce que ça me dit, c'est ce que ça veut dire. Et ils interprètent à leur manière. Et Pierre dit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. C'est pas possible. C'est pas possible de faire comme ça. L'Écriture ne dépend pas le sens de l'Écriture ne dépend pas du lecteur de l'Écriture. Dépend uniquement de Dieu qui l'a donné. Et il faut arriver avec cette pensée-là quand on s'approche de l'Écriture. Parce qu'il y a des théologiens libéraux qui maintenant prennent les Écritures et qui vous disent « Le Seigneur ne va pas revenir, c'est pas comme ça que ça va se passer, ça va se passer. » Il est déjà revenu. L'apôtre Paul le dit déjà aux Thessaloniciens, il y a des gens qui disent même que nous avons envoyé des lettres attestant que le Seigneur est déjà revenu. Il dit « Ne croyez pas cela, ne vous laissez pas troubler par cela. » Et ils le font à partir de quoi ? Des Écritures, ils vous disent « Non, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter. » Et chacun a son interprétation. Il y a des gens qui nous disent, mais oui, il y a une seule Bible et 1000 interprétations. Donc moi, je choisis l'interprétation qui me convient. L'apôtre Pierre dit, non. Il dit, l'Écriture ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière, individuelle. Ça n'est pas possible. Pourquoi ça n'est pas possible? Il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes qui ont écrit ont parlé de la part de Dieu et ils étaient inspirés, poussés par le Saint-Esprit. Et donc Dieu a voulu dire quelque chose de particulier. Dieu, quand il nous sauve, il nous donne quoi ? Qu'est-ce qu'il nous donne ? Son Esprit Saint. Pourquoi faire ? Jean chapitre 16, je crois, le dit. Pourquoi faire ? L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. L'Écriture est donnée par l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous donne ce même Esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. Donc il dit, ça ne peut pas être l'objet d'une interprétation de n'importe qui particulière. L'Esprit même qui a inspiré les prophètes nous aide, et les apôtres nous aident aussi lorsque nous lisons la parole de Dieu et nous conduit dans la vérité. Il dit que personne ne peut connaître les choses de l'Esprit de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même. Il dit que nous avons, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, et nous avons l'Esprit du Seigneur. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut estimer les choses qui concerne Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, et il ne peut pas connaître les choses de l'Esprit de Dieu. Aucune prophétie ne peut être l'objet d'interprétation particulière, parce que cette Écriture que nous avons, c'est la parole de Dieu. C'est des hommes qui l'ont écrit. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, « Oh, mais la Bible, c'est écrit par des hommes. » Je dis, « Oui, mais... » Je connais aucun livre qui n'ait pas été écrit par des hommes. Hein. Quel que soit le livre, hein, le livre de science qui dit qu'il y a eu le Big Bang, il a été écrit aussi par des hommes. Donc, je dois faire quelque part confiance à ce qui a été écrit par des hommes qui disent que c'est Dieu qui a créé le monde, ou par des hommes qui disent que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde. Mon choix, il est entre une écriture d'homme et une écriture d'homme. Seulement, j'ai la certitude que dans un cas, les uns ont écrit poussés par l'Esprit de Dieu. Et puis que Dieu nous donne son Esprit pour comprendre ces choses. Et quand j'entends le témoignage de cet homme qui a, sur le chemin là, qui a reçu Christ dans sa vie et qui avait le sourire comme cela et qui continue, je me dis, une écriture d'homme n'a jamais pu faire ça. Quand c'est une écriture uniquement d'homme. Hein. Si de telles choses sont possibles, c'est parce qu'il y a une vérité qui est transmise dans ce texte pour que ces gens puissent avoir une vie transformée. Comment expliquer que quelqu'un écoute l'Évangile, marche sur un chemin, ne sait rien de l'Évangile, écoute cet Évangile, le reçoit dans son cœur, et puis a une vie qui est transformée. Si c'est juste, je n'ai jamais vu, pour prendre la plus belle poésie qui soit, chez nous, il y a le grand poète Aimé Césaire, il est décédé. Eh bien, il y a 2 ans, pour un aux Antilles, et c'est extraordinaire. Il y a un culte maintenant qui est voué à cet homme. Et les gens ouvrent ses poèmes, et puis ils sont en train de les. À la télévision, ils récitent ça page par page, ils récitent les poèmes. Et ils disent, oh, jamais on a entendu des choses aussi magnifiques. Mais ces mêmes personnes qui lisent ça n'aiment pas leurs voisins, ou ils font des choses extraordinairement mauvaise. Ces beaux poèmes profonds et extraordinaires qui ne les a jamais amenés sur des cimes aussi élevées est incapable de leur inculquer le moindre amour pour leur prochain. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, votre cœur est rempli, transformé, parce que c'est une parole de Dieu, une parole vraie. L'apôtre Pierre dit, vous faites bien de prêter attention à cette parole. Et n'écoutez pas ce qu'ils vous disent, qu'on peut l'interpréter comme ceci, comme ceci ou comme cela. Il n'y a pas 36 000 manières de l'interpréter. Il n'y a qu'une seule manière. Et elle est dictée, elle est donnée par le Saint-Esprit. À nous, de demander dans l'humilité au Seigneur sa direction par l'Esprit Saint pour comprendre sa parole. C'est à nous de comprendre ce que Dieu a voulu nous dire. Il nous donne, on l'a dit tout à l'heure, des livres écrits par des gens qu'il a formés, il nous donne sa parole, il nous donne des frères et sœurs qui ont déjà une expérience avec lui, qui peuvent nous aider dans ce processus-là. Mais ne nous laissons pas démonter par ce que peuvent dire les autres. Pierre dit ici, le Seigneur va revenir. Je le sais, nous avons eu une expérience et nous vous disons que notre témoignage, il est vrai. Nous étions des témoins oculaires. Mais vous avez intérêt à prêter attention à la parole de Dieu, à la parole prophétique, parce qu'elle est nécessaire et utile, la seule garantie contre l'erreur. Et elle ne peut pas être interprétée de différentes manières. N'écoutez pas ceux qui vous le disent. Parce que les hommes qui ont écrit l'ont fait par l'Esprit de Dieu. Et Dieu a une pensée quand il écrit les choses. Une pensée tellement particulière qu'il nous donne son esprit, même esprit, pour comprendre cette parole qu'il a écrite. Et donc, vous pouvez faire confiance à cela dans la soumission.